Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Panorama jusqu'à 20h sur la déprime du marché automobile. C'est bien simple, on n'avait pas vu ça depuis 30 ans. Et quand on regarde les statistiques et les prévisions, les cabinets de conseil en stratégie ne prévoient pas d'amélioration significative ces prochaines années. Peut-être une légère croissance d'ici 2026. Ça peut vous donner quand même une idée de ce qu'est la déprime des constructeurs, des concessionnaires et de toute la filière de l'automobile. Bonsoir à Francis Bartholomé.
Bonsoir.
Président de Mobilience, la filière de ces métiers automobiles qu'ils sont nombreux. Mobilience, bonsoir à Lionel Frenchkio.
Bonsoir.
Vous êtes le patron de Hyundai Motor France. On va analyser cette chute abyssale. Capucine Patouillet d'abord. Bonsoir à vous Capucine.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Ce marché automobile européen, il n'avait pas connu de chiffres aussi mauvais depuis 1993.
Et oui, puisqu'on a vendu seulement en 2022 près de 9,3 millions de véhicules. On était à peu près aux alentours de 9,2 en 1993. Et selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, le marché européen en 2022 serait même en recul pour la troisième année consécutive. Depuis le mois d'août, la tendance des ventes était pourtant à l'amélioration, avec notamment un rebond favorable de 12,8% en enregistré en décembre. Mais après le confinement de 2020, les crises se sont enchaînées, ne simplifiant pas la reprise, avec entre autres le manque de semi-conducteurs, l'inflation des coûts ou encore la pénurie de composants suite à la guerre en Ukraine. De plus, la mise en place de nouvelles réglementations comme la fin de la vente de voitures thermiques pour 2035 aurait dissuadé les acheteurs européens, comme le prix élevé des véhicules électriques. Stellantis est le constructeur le plus impacté par cette baisse avec moins 14,1% des ventes, 1 823 000 véhicules vendus en 2022, quand les groupes Volkswagen, Renault et BMW limitent la casse avec respectivement moins 5,2% pour le numéro 2 mondial allemand avec 2,3 millions de véhicules vendus, moins 4,3% pour la marque aux losanges avec près de 1 million de ventes et moins 5,1% soit un peu plus de 624 000 véhicules pour BMW. Les groupes asiatiques peuvent en revanche s'enorgueillir d'enregistrer une belle année en 2022 avec une hausse du nombre de véhicules vendus, plus 2,6% pour le coréen Hyundai Kia et plus 7,7% pour le japonais Toyota.
Voilà les chiffres un peu positifs pour les marques asiatiques. Alors Lionel Frenchkio, c'est quoi la recette coréenne, japonaise aussi, mais coréenne, pourquoi ça marche mieux ?
Alors, il y a plusieurs explications. La plus évidente, en fait, c'est d'abord lié à la technologie. Parce que, effectivement, on est dans une situation un peu particulière dans l'automobile. Et c'est vrai qu'il faut faire attention quand on utilise certains mots. Les livraisons et les immatriculations sont effectivement en baisse. Mais finalement, il y a un vrai décalage entre les commandes qui sont passées par les clients aujourd'hui et les voitures qui sont livrées, toujours pour des problématiques de production.
Combien, donc, on va dire, à peu près
Si je regarde le marché français, parce qu'on n'a pas forcément toujours les statistiques de commandes au niveau pan-européen, mais au final, sur les deux dernières années, il y a des écarts de l'ordre de 200 à 300 000 commandes prises qui ne sont pas livrées. Donc en théorie, d'après les chiffres du CCFA, il y aurait un portefeuille de l'ordre d'un demi-million de voitures qui ne seraient aujourd'hui pas livrées. Donc la situation n'est pas finalement aussi négative si je parle
pas
du marché français.
Pas livrée, ça veut dire que je commande ma voiture et elle ne vient pas, ou est-ce qu'elle vient, mais elle vient 8, 9, 10
elle
mois après.
Elle vient avec des délais qui sont très longs. Ouais. Donc parfois, effectivement, au-delà des 12 mois. Donc c'est là où il faut avoir une analyse un peu plus fine du marché. Mais pour revenir au succès de la marque et de manière générale du groupe, effectivement, c'est d'abord dû aux technologies. Et évidemment la qualité des produits, mais aujourd'hui quand on regarde un peu la manière dont le marché se divise, se segmente, il y a deux technologies qui fonctionnent très bien, qui sont positives par rapport à l'année dernière, c'est l'hybride et l'électrique. Toutes les autres technologies, l'essence, le diesel et même l'hybride rechargeable sont des technologies qui baissent.
Parce que les gens ont peur d'acheter un Bebop avant d'acheter un téléphone portable.
Ils aspirent surtout à acheter une mobilité qui soit plus vertueuse. Et finalement,
c'est vraiment dans l'esprit de tout le monde, ça, alors qu'on a l'inflation, on a la réforme des retraites. Les gens se disent, tiens, je vais acheter une bagnole électrique. Vraiment, ouais. Lionel Frenchkio ?
Absolument. Parce qu'on est sur des niveaux de croissance, quand on a un marché total qui est en baisse de l'ordre de 7%, pardon, l'année dernière, on a l'hybride et l'électrique qui sont sur des croissances de plus de 25%. presque 30% pour l'hybride. Donc on est sur des croissances qui sont très fortes. On n'est pas simplement sur...
Mais c'est parce qu'on partait de quasiment rien aussi.
On partait de bas, mais aujourd'hui, quasiment, on a le même volume de vente en électrique qu'en diesel sur le marché français à 20 000 voitures près. Donc on commence à parler de...
Ça, je pense
de...
que les Français ont compris que le diesel, c'était pas l'avenir.
Voilà, donc on commence à parler de volume important. Et malgré tout, l'automobile ne peut pas finalement faire abstraction complètement des attentions écologiques des gens.
Francis Bartholomé, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, vous qui depuis quand même de nombreuses années alertez sur attention, il va y avoir la chute, attention, il va y avoir la chute, attention, ben là, la chute, elle est là. Hein.
Oui, bon, je partage en partie ce que vient de dire notre ami là. Simplement, on est tout à fait d'accord sur la volumétrie des voitures en stock et à livrer, ça c'est vrai. On peut même dire ce qui peut être inquiétant un peu plus aujourd'hui, c'est que si je parle de manière sur un marché global, hein, je pense qu'il faut prendre toute marque. Globalement, on a senti quand même depuis 3-4 mois une baisse importante des commandes dans les concessions, et notamment sur des véhicules poursuivants dernièrement. Donc moi, ce qui est un peu plus inquiétant, quelque part, c'est le non-renouvellement d'un carnet qui a du mal à se livrer, si vous voyez ce que je veux dire. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on livre peu de voitures, mais on en commande encore beaucoup moins. Donc, ça veut dire qu'à terme, on va quand même vers un certain problème. Sur le plan de ce qui est notre ami sur les technologies, bien sûr que je partage, et bien sûr... Cette volonté, effectivement, d'aller vers des technologies beaucoup plus modernes et beaucoup plus dans l'air du temps, si vous voulez, en termes de...
Donc le fait de se tourner vers la voiture électrique, vous confirmez, ça a pris, c'est dans la tête des gens, les gens viennent, notamment chez vous, dans votre concession, pour dire, ben voilà, nous, on voudrait une voiture plutôt électrique.
Voilà, c'est pas tout à fait ça. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, globalement, tout le monde a bien compris que, de toute façon, il n'y aurait pas de retour en arrière.
Ouais.
D'une fois que l'Europe a décidé, alors là, on peut, nous à Mobilience, on s'est prononcé sur le sujet d'ailleurs, et vous savez très bien, Pierre, on s'est prononcé contre, attention à cette volonté d'aller très vite pour pouvoir électrifier un parc. Mais à partir du moment où, malgré ce qu'on a dit, malgré ce que les constructeurs, de manière générale, ont dit, et qu'il a été décidé la fin du moteur thermique, inévitablement, on sait donc qu'on est parti dans ce sens. Ceci étant dit, maintenant, où je ne partage pas tout à fait l'avis, c'est le choix du consommateur et l'automobiliste. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. C'est que, d'une part, les prix sont excessivement élevés, donc les voitures sont de plus en plus chères. Alors là, c'est un sujet un petit peu différent, puisque grosso modo, et la baisse, suite à la baisse des semi-conducteurs, suite à la baisse des composants, par absence, inévitablement, les constructeurs se sont mis, pour la plupart, et notamment les Européens, ce sont moins vrai un peu pour nos amis de la partie Corée et Japon, mais se sont mis à limiter la voiture en quantitatif. Nous avons vendu des voitures de haut de gamme et de plus en plus chères et mieux finies. Ce qui fait que ça a augmenté les prix. Grosso modo, conséquence pour nos constructeurs européens, et je dirais carrément généralistes, voire américains, c'est que grosso modo, ils ont fait des résultats de chiffre d'affaires extrêmement faibles. Vous voyez bien les immatriculations, votre collègue l'a répété, mais globalement, les marges enregistrées sur les produits sont des marges qui permettent effectivement de recouvrir des résultats. Donc on est quand même dans une situation un peu particulière où on voit une chute globale du chiffre d'affaires et on voit effectivement des marges restantes et des résultats positifs. Je pense qu'on est rentré dans une nouvelle phase, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir un peu l'avis de nos amis de Hyundai, on est rentré dans une nouvelle phase où à mon avis on ne verra plus jamais 2 millions de voitures en France ou 2 millions 3. Je pense qu'on a compris que ce marché-là est en train de beaucoup bouger.
Alors,
la bonne nouvelle pour nous, Pierre, c'est que, juste intéressant, la bonne nouvelle c'est que ça a fait exactement à peu près pareil pour la distribution. Les concessionnaires que nous sommes sont souvent maintenant des concessionnaires multimarques, avec des marques françaises, des marques allemandes, des marques éventuellement coréennes et japonaises, ce qui fait que grosso modo, on a dans ce panel de nos marques, on a des résultats, reconnaissons-le, qui sont extrêmement positifs avec les marques coréennes et les marques japonaises, et qui globalement viennent largement compenser ce qu'on peut avoir sur le quantitatif des marques européennes et américaines. Mais en termes de marge, globalement, c'est l'ensemble du produit qui fait que l'année dans son ensemble elle-même ne donne pas des résultats trop inquiétants pour les concessionnaires et les agents en général.
Lionel Frenchko va vous répondre, puisque vous l'avez interpellé directement. Et puis, je voudrais aussi avoir son avis sur le fait, parce que vous l'avez un peu développé, Francis Bartholomé, est-ce qu'on est allé un peu trop vite vers la technologie électrique, ce qu'il disait ? Est-ce qu'on avait un peu mis trop vite le pistolet sur la tempe ? Ce qui fait que, fatalement, on a on est contraint d'acheter des voitures qui sont plus chères. Les voitures électriques sont plus chères que les voitures thermiques.
Alors, pour répondre à la première question sur l'évolution du marché, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on a pris l'habitude par le passé d'avoir un marché français automobile autour de 2 millions d'immatriculations en moyenne. Bon, là, ça fait quelques années qu'on ne l'a pas vu et je pense qu'effectivement, on ne le verra plus jamais. À ce niveau-là. Pour plusieurs raisons. Effectivement, d'abord, il y a une problématique effectivement, de pouvoir d'achat et pas simplement, je dirais, lié à la problématique du moment, mais le prix des voitures étant plus cher, ça les rend difficilement accessibles. Et puis en plus, globalement, aujourd'hui, on apprend un peu aux gens à se passer de voiture. Donc, ils vont finir par se rendre compte que pour un certain d'entre eux...
Pas dans toutes les zones, hein.
Pour certains d'entre eux, en avoir deux, c'est peut-être pas forcément utile, etc. Donc, ça va générer des ajustements.
Avant, on avait deux voitures, parfois en zone urbaine. Maintenant, on a une voiture et un vélo. Voilà.
Donc, il y a des évolutions qui vont être liées à tous ces éléments-là et qui vont ramener effectivement un marché qui va être bien plus faible que celui qu'on avait pris l'habitude de voir.
Est-ce qu'on est allé trop vite?
Alors, je veux dire, c'est tout dépend de quel est le prisme qu'on choisit. C'est-à-dire que si vous posez la question à des gens qui sont précautionneux de l'environnement, ils vont vous dire non, on n'est pas allé assez vite.
Je parle au patron d'une des moteurs France.
Si vous parlez au patron d'une des moteurs France, je veux dire, le plus vite on y va, le mieux je me porte. Et c'est propre à ma marque qui a beaucoup...
C'est propre à votre marque, c'est peut-être pas propre à tous les constructeurs.
Voilà, donc après, je dirais, c'est effectivement des choix qui sont propres à chacun des constructeurs.
Mais cela dit, vous n'êtes pas le seul. Par exemple, Volvo, pour ne prendre que cet exemple, se tourne vraiment complètement vers une technologie électrique. Il n'y aura plus de voitures thermiques d'ici peu de temps, en fait.
Voilà, sachant qu'effectivement, l'enjeu, c'est comment on est capable, en tant que constructeur automobile, de mettre à la route des véhicules qui soient à zéro émission, en fait. C'est ça le fond du sujet. Donc c'est vrai qu'on peut contester le choix de l'électrique à batterie. Et je veux dire, pourquoi pas, parce qu'il y a plein de choses qui sont dites.
C'est vrai que vous faites de l'hydrogène, par exemple. Vous avez un modèle à hydrogène.
Il y a plein de choses qui sont dites, tout à fait. Il y a plein de choses qui sont dites sur l'électrique à batterie, sur la dépendance que ça générerait vis-à-vis de
les métaux rares, etc. Sûr,
donc, tout ça, c'est vrai. Mais à ce stade, personne n'a amené d'alternative crédible à une mobilité zéro émission en dehors de l'hydrogène. Donc c'est aussi ça le cœur du sujet. C'est on ne peut pas aujourd'hui, en tant que constructeur, en tant que citoyen, en tant que patron d'une marque, dire on n'est pas d'accord avec cette direction-là sans amener de solution alternative. Et à ce stade, malheureusement, il n'y a pas de solution alternative.
Donc, et je vais donner la parole ensuite à Francis Bartholomé, mais donc on est dans une mutation. On dit souvent, j'ai été un des premiers à le dire, on est dans comparable à la mutation du début du XXe siècle où la voiture à explosion a remplacé le cheval, où évidemment, et c'était le cas en 1910 quand il y a eu les premières voitures, la voiture était extrêmement chère. C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de gens qui avaient une voiture. Est-ce que Francis Bartholomé en est dans ce schéma-là? Sachant qu'évidemment, il y a des bonus. Il y en a eu beaucoup, par exemple, en Norvège pour la voiture électrique, mais il y en a aussi en France. Tout ça, ce n'est pas pérenne. À un moment donné, tout ça, ça va s'arrêter.
Non, je pense que c'est l'inquiétude un petit peu actuellement. Moi, je reviens juste un petit mot sur le stade de cette... Est-ce qu'on a été trop vite ou pas trop vite? Je pense globalement quand même que le monde politique dans son ensemble, y compris le monde de Bruxelles, n'a pas écouté quand même ce que pouvait apporter soit les constructeurs et les industriels de manière générale et les automobilistes. Et moi, je pense qu'on ne peut jamais contre à la fois l'industrie et contre les gens. Je crains un tout petit peu les soucis que ça peut avoir sur les problèmes sociaux et les problèmes économiques. J'estime qu'on a été un peu trop vite et qu'on va quand même risquer un peu de casse. Bon, faut pas...
D'ailleurs, y compris ce que vous dites sur la filière automobile, c'est-à-dire des métiers, des gens.
Oui, je pense que c'est un peu de casse. Il y a un exemple aussi quand même qui est relativement inquiétant. Quand vous regardez un petit peu la percée du marché nos amis constructeurs chinois, j'ai nos amis parce que je les connais aussi, j'ai un moment donné, ça veut bien dire qu'à un moment donné, ils ont positionné une technologie pour laquelle ils ont de l'avance par rapport à nos constructeurs européens et américains, alors que sur le thermique, c'était tout à fait le contraire. On est en train de le rouvrir pour des raisons effectivement d'un coût et de prix. Les voitures sont aujourd'hui très, 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 très comparables aux nôtres, elles sont de qualité, mais elles sont entre 10 et 15% moins chères. Et on voit bien que l'effet prix aujourd'hui, puisque vous en parliez, Pierre, des prix, est en train de jouer un mauvais tour, à mon avis, à ce qui se passe en Europe. Restera effectivement le savoir si l'Europe est capable ou veut ou pas importer des voitures de ce type de technologie d'aussi loin avec le problème de l'importation carbone, enfin, tout ce qui se dit sur l'impôt carbone aux frontières. Il y a des vrais sujets. Il y a un vrai sujet aussi qui sera demain pour relancer la vente de la voiture, on va dire sûrement toute électrique, c'est est-ce qu'il y aura un leasing social comme le président Macron l'avait proposé.
Pas tous les sujets à la fois, Francis Bartholomé, parce qu'effectivement, c'est des sujets connexes, je comprends bien, mais je reste quand même sur ce que vous avez dit sur la casse sociale. Lionel Frenchke, Hyundai, bon d'accord, c'est des voitures coréennes, mais il y a des usines en Europe. Est-ce qu'il peut y avoir de la casse sociale justement à cause de ça?
Aujourd'hui, quand on regarde la manière dont on planifie en tout cas les choses d'ici à 10 ans, puisqu'on parle d'échéance à 10 ans maintenant, globalement aujourd'hui on a des usines qui majoritairement fabriquent des véhicules thermiques dans les faits, puisqu'on fabrique i10, i20, i30, Bayon, Tucson, alors parfois hybride rechargeable, mais il y a un moteur thermique dans ces véhicules-là et le Kona dans sa version électrique. Donc majoritairement on fabrique aujourd'hui des voitures thermiques en Europe. Mais le plan qu'on a dans les années qui viennent, c'est que ces deux usines que nous avons en Europe, elles vont fabriquer uniquement des voitures électriques. Donc en Europe, pour le marché européen.
Mais ça veut dire que mon technicien qui est dans une de vos usines qui fabrique pour l'instant des voitures thermiques, est-ce qu'il aura le knowledge, comme on dit en bon français, est-ce qu'il aura la connaissance pour fabriquer une voiture électrique, ou est-ce qu'il va avoir une formation? Qu'est-ce qui va devenir ce technicien?
En tout cas, ce qui est aujourd'hui travaillé avec notre siège européen, c'est justement comment on travaille à la conversion des équipes qui sont aujourd'hui en place, de manière à ce qu'effectivement on bascule sur ces technos-là, sachant que la réalité c'est que aujourd'hui, en tout cas en Europe, nos best-sellers sont Tucson et Kona dans sa version électrique, et que ces deux véhicules-là sont déjà électrifiés dans les faits, puisque quand on a un véhicule
donc
hybride,
mon technicien il sait déjà plus ou moins
exactement, donc là, c'est une évolution et pas forcément une révolution. Après il y a des éléments effectivement d'apprentissage qui sont importants à anticiper. Mais, ça ne sera pas un drame d'un point de vue social.
Mais sur le volume, on sait qu'il faut à peu près 20 techniciens pour fabriquer une... Alors, pas au total, mais quand on fait le comparo, on fait 20 pour une voiture thermique, 7 personnes pour fabriquer une voiture électrique. Il faut beaucoup moins de personnes, en fait, pour fabriquer une voiture électrique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver sur le carreau.
Oui, mais la problématique, en fait, c'est que, et c'est complexe, c'est qu'on envisage l'automobile demain comme l'automobile aujourd'hui. Et la réalité, c'est qu'il y a d'autres filières qui doivent impérativement se créer. Un sujet qui est clé par rapport à la voiture électrique, c'est le recyclage. Parce qu'on parle beaucoup de la dépendance sur les matières premières, etc. Mais il faut qu'il y ait une filière de recyclage industriel qui se crée. Parce que derrière ces matières-là...
Elle n'existe pas pour l'instant.
Aujourd'hui, non, c'est artisanal. Enfin, je veux dire, elle n'est pas européenne, elle est très locale. Et donc, ça, c'est aussi des ressources humaines, des ressources technologiques, et c'est du profit. Donc là, il y a des enjeux forts. Et de manière générale, quand on parle de l'univers autour de l'automobile et des adhérents de Mobilience, il y a aussi des évolutions dans ces métiers-là qui devraient arriver. Parce que, de nouveau, il ne faut pas qu'on apprenne l'automobile comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres services liés à la mobilité qui vont arriver et dans lesquels les réseaux ont leur rôle à jouer aussi.
Francis Bartholomé pour Mobilience.
Oui, je partage tout à fait. Bon, c'est vrai qu'à Mobilience, vous le dites, mais même sur le plan aujourd'hui des problèmes de recyclage, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, la filière aval que nous connaissons est plutôt en avance d'ailleurs par rapport à l'industrie de ce que je peux voir en France. Donc on a clairement mis en place depuis très longtemps cette filière qui aujourd'hui est tout à fait proche à reprendre le relais. Ça, je suis tout à fait d'accord. On a effectivement des métiers demain qui existeront, qui n'existent pas aujourd'hui. Mais je voudrais, si l'on est d'accord, je voudrais quand même qu'on partage l'idée globale que pour les concessionnaires, je reviens pour cette branche importante de chez nous, il y a un vrai sujet aujourd'hui qui est un petit peu la façon dont les réseaux et certains réseaux de constructeurs envisagent l'avenir de la distribution automobile. C'est aussi un sujet qu'on ne peut pas ignorer. Donc on est en train d'en discuter avec
Vous dites ça, Francis Bartholomé, parce qu'aujourd'hui, on achète sa voiture sur Internet.
Oui,
c'est-à-dire qu'on la configure, on se dit, voilà, il y a le constructeur fournit absolument tous les outils. Et à la fin, on va en concession en disant, écoutez, voilà la configuration de ma voiture, je voudrais passer le bon de commande.
Oui. Ceci étant, nous, on pense que globalement, aujourd'hui, il y aura toujours un besoin d'un service. On a un avis très clair au niveau de la branche des concessionnaires. Vous voyez bien les communications qu'on arrive à faire quelquefois pour montrer qu'il y a un raisonnement des plats. D'ailleurs, je sais très bien, je suis aussi quelque part concessionnaire de marque de dont Paul défend notre ami, je sais très bien qu'aujourd'hui,
c'est la marque
il y a une
cousine.
Façon aussi. Oui, c'est la marque cousine, et quelque part, je vois très bien qu'il y a une certaine façon de juger, d'appréhender le client, celle qu'on l'a aidé, d'une façon un peu quand même, je dirais, relativement classique. Donc là-dessus, on voit les choses, parce que c'est quand même extrêmement important, effectivement, de penser que si on met simplement quelqu'un devant son ordinateur à acheter sa voiture à un prix où il est, nous, on reste totalement convaincus qu'il y aura toujours besoin de ce côté de conseil, ce côté de service, ce côté d'approche. Ouais. Le renouvellement des voitures aujourd'hui se fera toujours avec des gens qui, effectivement, assumeront à peu près cette responsabilité de garder le client dans la marque. Ça, c'est inévitable. Bon, on est en train d'en parler beaucoup. On échange, d'ailleurs. Les avis sont bien moins tranchés qu'ils l'étaient il y a quelques temps. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et je crois que c'est effectivement important pour que le client... Et puis, vous savez, aujourd'hui, bien, pour toi, pour vendre une voiture assez chère comme ça et convaincre quelqu'un d'aller chercher une voiture purement électrique, il est préférable que ce soit quelqu'un qui, effectivement, lui explique l'ensemble des sujets, lui fait perdre un peu les craintes qu'il peut avoir sur des problèmes d'autonomie et d'attitude. S'il n'a pas cet environnement qu'il est là,
mais il se passe. Je suis assez d'accord que les gens sur les voitures électriques, en tout cas, et sur l'autonomie, sont pas du tout bien informés.
Pierre, aujourd'hui, on veut bien qu'il y ait des gens qui existent un petit peu ce recul de la prise de commande. C'est aussi lié, bien sûr, au délai. On en a parlé tout à l'heure, vous avez raison.
Mais
c'est aussi lié au fait du choix où les gens sont quand même un petit peu dans l'incertitude et dans l'inquiétude d'opter pour une voiture en se disant « mais qu'est-ce qui va plus se passer ?» Je vous fais grâce des problèmes d'utilisation de ce type de véhicule aujourd'hui. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas simples. Quoi,
alors justement, le patron de filière va vous répondre sur les réseaux, justement. Est-ce qu'un jour, il n'y aura plus de concessions ? Lionel Frechko.
Non, je pense que, enfin, en tout cas, ma conviction, c'est que on a beau avoir de très bons produits, on est toujours en concurrence et l'automobile, c'est un marché concurrentiel. Et donc finalement, quand on vend un produit qui est en concurrence avec d'autres, la manière de s'assurer qu'on va vendre plus que les autres, bah, c'est simplement d'avoir des bons vendeurs. Et je ne connais pas beaucoup de marchés concurrentiels où finalement, on peut arriver à faire la différence sans avoir des gens qui vendent et qui vendent mieux que les concurrents. À l'après, là où ça évolue et ça doit évoluer, c'est qu'effectivement, c'est la manière de le faire. C'est-à-dire que il y a toujours des gens qui vont aller en concession acheter une voiture. Il y a des gens qui vont le faire à distance et il y a des gens donc, qui vont acheter une voiture à distance. Il faudra aussi des vendeurs pour leur donner des conseils. Mais c'est vrai que moi, ça fait presque 30 ans maintenant, le temps passe trop vite, mais que je travaille dans l'automobile et que finalement, la manière de vendre n'a pas beaucoup évolué dans les faits. Alors évidemment, Internet est arrivé et a amené beaucoup de sources d'informations, mais la manière dont on vend une voiture n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire que on arrive, on fait un essai, on est conseillé par un vendeur et ensuite on signe un bon de commande. Ça va évoluer parce que les médias aujourd'hui disponibles sont bien plus larges.
Merci beaucoup Lionel Frechko, merci à vous Francis Bartholomé. C'est la fin de Panorama et c'est la fin d'Europe Soir Week-end. Voici Lionel Rousseau pour le sport.
Et c'est le début d'Europe 1 Sport dans quelques instants. Pierre de Villeneuve en effet avec la Coupe de France. Et une belle rencontre ce soir, 5 divisions d'écart entre l'Olympique Strasbourg, Königshofen et l'équipe d'Angers, équipe de Ligue 1. Mais il peut y avoir des surprises, il va peut-être y en avoir d'ailleurs dans quelques instants puisqu'il y a 2 séances de tir au but dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais notamment entre l'équipe de Grasse et de Rodez, l'autre c'est Bastia Lorient et puis les grands débats bien sûr autour de nos experts. À tout de suite.
Très bonne soirée avec Lionel Rousseau.